Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la place des écrans dans notre vie. Alors, cet enregistrement, je le fais après avoir écrit l'article, donc j'ai un peu de recul dessus. Il y a des sujets que j'ai plus envie de développer que d'autres. Et le premier point, c'est en fait que je ne veux pas parler que des réseaux sociaux et plus des écrans en général. Alors déjà, pour commencer, je voudrais dire que les écrans, je ne veux pas les diaboliser, ils peuvent être très utiles. Déjà, quand on a une douleur chronique qui est très forte, et ben, y a des moments où les écrans ils nous permettent de nous évader, et c'est super. Je veux dire, quand on souffre beaucoup, et ben, des fois, se mettre devant une vidéo YouTube ou regarder une série à la télé ou n'importe, ça permet de nous enlever la douleur de la tête, de penser à autre chose, de nous distraire, et ça peut faire du bien. Et ça, je ne veux pas revenir dessus à dire « non, mais il faut arrêter les écrans, pas du tout, je ne veux pas les diaboliser ». C'est simplement l'usage qu'on en fait. Parce qu'à un moment, on peut devenir accro et on passe beaucoup plus de temps qu'on devrait dessus. Et à un moment donné, ce temps qu'on devrait utiliser pour se faire du bien, pour prendre soin, pour aller mieux, eh ben, on ne le prend pas. Et si les écrans nous volent tout ce temps et que ça nous empêche de progresser, eh ben, là, on a un problème. Et moi, ce problème, je l'ai depuis très longtemps parce que j'ai une tendance à être addict à tout ce que les écrans proposent. Et les réseaux sociaux, c'est ma dernière addiction, mais j'en ai eu plein avant. Alors, peut-être que vous vous reconnaîtrez plus dans d'autres de mes addictions. La première, ça a été les séries télé. Alors, je ne dis pas que les séries télé, ce n'est pas bien, mais simplement, moi, quand je me mets devant un épisode en me disant, tiens, je vais regarder juste un épisode et j'arrête, eh ben, je ne vais plus pouvoir m'arrêter. C'est le binge-watching. Quand on se couche à plus d'une heure du matin parce qu'on a voulu regarder la fin de la série et que le lendemain, on est crevé à cause de ça, et ben là, les écrans, et ben, ce n'est pas que du bonheur. On se dit, là, il y a un problème. Et donc, à la fin, j'en suis arrivée que je regarde presque plus de séries. Une autre addiction que j'ai eue après, qui pour moi est un peu la pire de toutes, parce qu'elle amène vraiment rien, c'est celle aux petits jeux qu'il y a sur les téléphones portables. Alors, des petits jeux, j'en ai fait plein. Il y a eu, je crois que les premiers, c'était Angry Birds. Après, il y a eu Candy Crush. Et puis, un des derniers sur lequel vraiment j'ai passé beaucoup trop de temps, c'était 2048. Alors, c'est des petits jeux, sur le principe, c'est très bien. Si on est capable d'en faire qu'un petit moment, eh ben, moi, je pense que ça distrait, c'est super. Mais moi, c'est pareil. Une fois que j'ai commencé une partie, je n'arrive pas à m'arrêter. Alors, j'ai certainement un problème là-dessus, mais j'en suis arrivée à désinstaller tous ces petits jeux parce que je sais que je suis incapable d'y passer juste 10 minutes. Je vais facile y passer une demi-heure. Et après, à chaque fois, il y a énormément de culpabilité et d'énervement contre moi-même à me dire « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as passé tant de temps ?» Tu avais plein d'autres choses importantes à faire et tu ne l'as pas fait. Et donc, vraiment, l'addiction aux écrans, pour moi, c'est ça. C'est se couper du monde et oublier le temps qu'on y passe. Et je vous invite à aller regarder le petit sketch de Kian Kojandi que j'ai mis un peu plus loin dans l'article parce que je pense que ça résume très bien maintenant ça peut être quoi une addiction aux écrans, comment on se fait happer dedans et à quel point maintenant ce sont les réseaux sociaux qui sont les plus forts pour nous rendre addicts. Et là, vraiment, ils sont très, très forts. J'ai compris à quel point il y avait une manipulation très puissante derrière tous les réseaux sociaux en regardant le film dont je parle donc dans l'article. Ce film s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » en français. C'est un film qui passe que sur Netflix, mais je crois qu'il y a eu plein d'articles dessus. Et bon, je vous ai mis la bande-annonce, ça vous donne déjà une très bonne idée de quoi il s'agit. Donc, dans ce film, on a beaucoup d'interviews de personnes qui ont travaillé à très haut niveau qui ont même été des concepteurs de tous ces réseaux sociaux. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de toutes les stratégies et outils qu'ils avaient mis derrière pour capter notre attention le plus longtemps possible. Il y a quelque chose de flippant dans ce film qui est vraiment bien mis en avant, c'est d'expliquer que le modèle économique de tous ces réseaux sociaux, mais la télévision c'est pareil, hein, c'est que nous ne sommes pas leurs clients, nous sommes leurs produits. Enfin, leurs produits, c'est notre attention et notre temps qui vendent à leurs vrais clients, qui sont les annonceurs publicitaires. Il faut qu'on soit le plus rentable possible, c'est-à-dire qu'on passe le plus de temps possible devant leur réseau social. Et pour ça, ils utilisent des outils qui nous manipulent sans qu'on en ait conscience. À partir du moment où on sait de quoi il s'agit, je pense qu'on peut tout à fait avoir assez de recul pour être vigilant et ne plus se faire avoir. Mais moi, jusqu'à maintenant, je pense que je n'avais pas bien compris comment marchait Facebook. C'était nouveau pour moi. Du fait qu'en fait, je n'utilisais pas Facebook. Il y a un peu plus d'un an, je n'utilisais pas Facebook. Et j'ai dû m'y mettre ici, aux États-Unis, parce que c'est beaucoup plus utilisé dans la vie courante. C'est-à-dire que si on va voir les dernières nouvelles de l'école, de la mairie ou du club des enfants, eh ben, c'est sur Facebook qu'on trouvera le plus vite les infos, le plus facilement. Ce n'est pas obligatoire, on ne nous oblige pas. Mais si on veut avoir toutes les infos rapidement, sans se poser de questions, on va sur son fil d'actualité, on s'est abonné à tout et on voit tout ce qui arrive. Mais avec ça, dans le fil d'actualité, mais on va être bombardé de publicités et de trucs qu'on n'a pas demandé. Et au début, moi, je commençais à regarder, je ne me rendais pas compte. Alors, c'est vrai que parmi ces publicités, ben, j'ai eu une publicité pour Curabol et que c'est grâce à cette application que j'ai pu me mettre dans l'approche MindBody et que c'est, ça m'a fait énormément de bien aujourd'hui. Donc, je ne peux pas non plus dire qu'on trouve sur Facebook, c'est que de la merde parce que ce n'est pas vrai. Il y a des trucs super intéressants, super utiles. Simplement, il faut avoir conscience qu'il faut savoir faire le tri, pas s'abonner à n'importe quoi, ne pas se faire happer notre attention comme eux, ils veulent. Quoi. C'est savoir s'arrêter, ce qui n'est pas facile. Et c'est aussi grâce à Facebook que j'ai pris connaissance du film qui est le sujet principal de cet article. Donc, le but n'est pas d'arrêter Facebook. Je pense que c'est un outil super pratique. Et là, j'utilise la même approche que j'utilise pour analyser tous les outils MindBody et autres qui permettent de mieux vivre avec une douleur chronique. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment ça marche, de voir tous les avantages, mais de voir aussi les inconvénients, les effets pervers et savoir mettre à notre sauce pour que ce soit le plus utile possible sans que ça soit nocif pour nous, en fait. Donc là, c'est vraiment mon objectif pour cet article, c'est de décortiquer tout ce qu'il peut y avoir de bien dans les réseaux sociaux et comment se méfier de leurs effets pervers et s'en protéger quelque part. Surtout que j'ai créé un groupe Facebook, donc je me sens la responsabilité qu'il soit utilisé de la manière la plus utile et bénéfique pour vous possible. Je vais passer assez vite sur ce que je retiens du film. Vous pouvez aller le lire dans l'article si vous voulez plus d'informations. Je dirais juste que la phrase un peu choc, c'est « si vous ne payez pas, c'est que c'est vous le produit ». Voilà. Et qu'ils utilisent vraiment les failles de l'esprit humain et les dernières connaissances de la neuroscience pour hacker notre cerveau primitif. On y reviendra un peu plus tard. Et quelque part, on leur offre généreusement notre temps, notre attention, et après, ils la revendent sans aucun scrupule à leurs annonceurs publicitaires. Ils ont 3 objectifs, qu'on reste le plus longtemps possible, qu'on partage pour faire vivre le réseau, et qu'on supporte leur pub, c'est-à-dire qu'on ne se déconnecte pas à cause de leur pub, donc ils trouvent un équilibre entre les pubs et les infos qu'on recherche. Les réseaux sociaux ont des effets angoissants, il n'y a aucun doute dessus. Je ne vais pas m'éterniser, mais sur l'estime de soi, en particulier pour les collégiennes, ça c'est terrible. Mais c'est aussi dangereux pour tout le monde, comment on se fait manipuler. Et c'est dangereux pour la société parce qu'avec tout ce qu'il y a comme fake news et qui nous maintiennent dans une bulle où on croit que ce qu'il y a dans la bulle, les infos qu'on voit dans la bulle, c'est la vérité alors que ça ne l'est pas forcément. Et donc, il faut être vigilant là-dessus, à ne pas croire tout ce qui passe dans les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que c'est ça que je retiens du film aussi, c'est que ce n'était pas voulu pour eux. C'est leurs algorithmes qui sont juste conçus pour partager ce qui marche le mieux en termes de capter l'attention des gens. Souvent, la réalité, elle est triste et ennuyeuse. Et les fake news, elles sont plus intéressantes. Et les gens, c'est ce que les algorithmes ont trouvé. C'est que les gens se partagent plus facilement et sont plus captivés par les fake news. Et ça les a mis en avant d'une façon que je pense les concepteurs de Facebook n'avaient pas du tout imaginé au départ. Et que maintenant, pour eux, c'est très difficile à gérer puisqu'ils ne sont pas capables, les algorithmes ne sont pas capables de démêler le vrai du faux. Donc ça, c'est un vrai problème de société qui, pour moi, m'effraie beaucoup en cette période de pandémie et d'élection ici aux États-Unis. Mais je m'arrête là, je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Ce que je veux surtout mettre en avant, c'est quels sont les outils qu'ils utilisent pour capter notre attention. Et qu'en fait, les réseaux sociaux hackent notre cerveau primitif, c'est-à-dire qu'ils utilisent nos fonctionnements inconscients qui ont été trouvés grâce à la science, grâce à la psychologie et tout ça. Ils utilisent tous les outils qui marchent pour pouvoir capter notre attention sans qu'on s'en rende compte. Et ce fait de hacker notre cerveau primitif, je me dis, moi, mais c'est exactement ce que je veux faire, mais non pas en me faisant manipuler par des entreprises extérieures, mais en l'utilisant moi, non pas dans leur intérêt à eux, mais pour aller mieux, Ce que je vais vous proposer dans tous les mois qui viennent, c'est de hacker nos cerveaux primitifs pour notre bien-être à nous, pour nous apaiser, pour calmer notre cerveau primitif, pour faire du renforcement positif, pour nous sentir mieux. Et tout ça dans l'objectif, diminuer notre douleur chronique, voire d'en guérir. Parce que vraiment maintenant, ce que je lis de plus en plus, c'est ça en fait. C'est que la douleur, c'est notre cerveau primitif qui la produit. On n'y peut rien, on ne va pas culpabiliser dessus. Il nous a fait un sale coup, mais maintenant, on peut le hacker à notre tour pour lui montrer qu'il s'est trompé et que maintenant, il faut qu'il arrête d'envoyer cette douleur. Donc, au lieu de laisser les réseaux sociaux hacker notre cerveau primitif, eh ben, ce que je vous invite à faire vraiment dans Couleur Chronique, c'est de le hacker nous. Parce que notre cerveau primitif, pour moi, il a donc deux grands fonctionnements. Le premier, c'est la survie. Il veut nous maintenir en vie, il va être alerté du moindre danger et s'il y a un danger, tout de suite, il va se mettre en alerte et il va nous envoyer des messages pour agir. Donc, la douleur en fait partie, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. La douleur en fait partie et heureusement, parce que la douleur aiguë en particulier, elle est là pour nous prévenir d'un danger et on va agir pour arrêter cette douleur. Quand on met la main dans le feu et que ça nous brûle, automatiquement, notre cerveau primitif va nous dire d'arrêter et on va le faire. Le problème, c'est quand le cerveau primitif se dérégule, qui bug et qui nous envoie de la douleur en permanence parce qu'il croit qu'il y a un danger permanent, alors que ce n'est pas le cas. Parce que notre cerveau primitif, il peut voir dans notre stress, dans les émotions qu'on refoule, dans la pression qu'on se met au quotidien, il peut voir un danger avec lequel il veut nous protéger par la douleur chronique et en fait, eh ben, ça ne marche pas. Donc le but, c'est de lui faire comprendre d'arrêter. Et pour ça, on peut utiliser le deuxième fonctionnement de notre cerveau primitif qui va en fait, une fois qu'il voit qu'il n'y a pas de gros danger, donc bon, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour nous alerter de ce danger, et ben notre cerveau primitif, il agit un peu comme un petit enfant, comme un animal. Il va aller vers tout ce qui va être confortable, agréable et va nous apporter un plaisir immédiat. C'est exactement ce que font les réseaux sociaux avec leurs petits boutons j'aime, avec les vidéos qu'ils nous proposent, qu'ils savent qu'ils vont nous faire plaisir et avec toutes les notifications qui nous disent « Ah, ça y est, j'ai un truc qui arrive ». À chaque fois, on a une petite dose de dopamine, il y a du renforcement positif. Et tout ça, ça fait que ça modifie notre fonctionnement interne. Ça a un vrai impact sur nous. Et donc, moi, ce que je vais proposer dans les prochains mois, eh ben, c'est de travailler sur notre cerveau primitif. En premier, on va déjà essayer de le rassurer en purgeant un peu tout ce qui vraiment, en fond, eh ben, l'empêche de se sentir rassuré. Donc, c'est par exemple tout le travail sur les émotions qu'on fait dans les prochaines semaines en se basant sur Nicole Sachs, mais après, on parlera d'autres choses. Et puis après, il y aura toutes les approches de Alan Gordon et Dan Buglio qui sont vraiment là pour apaiser notre cerveau primitif et lui envoyer des signaux positifs le plus possible. Voilà pourquoi je fais cet article, c'est pour vous dire que notre cerveau primitif, vraiment, il agit beaucoup plus dans notre quotidien qu'on pourrait le croire et il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur lui. On ne peut pas le contrôler directement, malheureusement. Ça serait tellement simple de lui dire « arrête de m'envoyer de la douleur », non, ça ne marche pas. Mais on peut tout à fait agir sur lui par un entraînement vraiment sur la durée. C'est comme les réseaux sociaux, ils ne nous rendent pas accro comme ça du jour au lendemain, c'est petit à petit, c'est vraiment de la manipulation sur le long terme. Alors nous, on va manipuler notre cerveau primitif aussi, voilà.